Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour un contre-histoire très actuel. Un coup d'œil sur notre industrie nucléaire et ses performances qui virent à la farce. Enfin, autant que ça reste à la farce, c'est pas sûr. Alors, pour commencer, je vais vous proposer un courrier qui nous est arrivé, un courrier d'Annie et Pierre Péguin qui font vivre le collectif Arrêt du nucléaire et qui nous disent « Deux risques catastrophiques menacent le vivant et sollicitent notre engagement. Mais si un nombre croissant de personnes se mobilise pour sauver le climat et la planète, ce n'est pas le cas pour l'arrêt du nucléaire, civil et militaire. Est-ce justifié? Tout se passe comme si le risque climatique était utilisé pour faire écran au risque nucléaire dont la négation se perpétue depuis son origine. Manifestation pour le climat, grève des élèves, communiqués d'ONG. Il apparaît que la population, et en particulier les jeunes, est de plus en plus sensible aux conséquences du bouleversement climatique. Dès maintenant, il est rendu responsable de désordres inquiétants, annonciateurs d'un effondrement inévitable. Tandis que le lobby pétrolier américain dépense des sommes considérables pour jeter le doute sur les travaux du GIEC, Je vous rappelle le GIEC, mais vous êtes au courant, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, le lobby pétrolier américain dépense des sommes énormes pour discréditer les résultats du GIEC et soutenir les climato-sceptiques. Pendant ce temps-là, le lobby français et international du nucléaire se frotte les mains. Il soutient bien sûr le GIEC, n'est-ce pas, monsieur Macron, en prétendant que l'énergie nucléaire est non seulement décarbonée, mais également propre. Deux allégations contestables ô combien. Quant au risque terrible que fait courir l'armement atomique mondial et la production nucléaire d'électricité, il n'en est pas vraiment question. Nous sommes donc de toute façon manipulés. Et il peut être utile de prendre en compte des réflexions décalées par rapport à l'idéologie dominante. Ainsi, Jean-Pierre Dupuis, proche d'Ivan Illich et auteur de « Pour un catastrophisme éclairé » paru au Seuil en 2002, Jean-Pierre Dupuis estime donc que l'humain a des capacités étonnantes d'adaptation au bouleversement de ses conditions de vie, comme l'histoire l'a montré. Mais il dénonce l'aveuglement face à l'apocalypse atomique et l'incapacité à envisager le pire engendré par la guerre nucléaire. Il lie donc les deux menaces climatiques et nucléaires à combattre. On peut se reporter avec profit et intérêt au mensuel La décroissance que vous connaissez bien sûr, le numéro 159 de mai 2019 et l'article toujours de Jean-Pierre Dupuis qui s'appelle « Ne pas oublier la bombe ». Eh oui. Ajoutons que la catastrophe nucléaire généralisée, qu'elle soit due à la guerre atomique ou à un enchaînement domino d'explosions de réacteurs, est d'une autre nature que la catastrophe climatique à laquelle l'humain aura à s'adapter, même si c'est dans la grande douleur. L'apocalypse nucléaire touche aux génétiques du vivant, et donc de l'humain. Ces dégâts sont transmissibles, je vous garantis, et irréversibles à notre échelle, car couvrant des centaines de milliers d'années. Et oui, c'est transmissible de génération en génération. Face à cela, l'aveuglement de la population est entretenu soigneusement depuis le début de l'ère nucléaire, alors que les risques pour le vivant en ont été perçus très rapidement. Mais il fallait les cacher pour ne pas entraver le développement de cette énergie colossale, source de pouvoir illimité. Thank you. Le négationnisme nucléaire, eh bien, ça commence avec le début du nucléaire. Ça commence au lancement du projet Manhattan, dont on se souvient qu'il est, si je ne m'abuse, un projet de Roosevelt, pour montrer que les États-Unis étaient les plus forts de la planète. Alors ça a commencé au lancement du projet Manhattan. Il fallait des moyens considérables mis en œuvre aux États-Unis pour aboutir à l'arme atomique. Et il fallait qu'il ne soit pas remis en cause par l'opinion publique nationale et internationale. Ça va aboutir, bien entendu, aux essais dans le Nevada, qui étaient le préalable à Hiroshima et Nagasaki. Les graves conséquences de la radioactivité sur le vivant devaient être cachées, y compris les horribles injections d'uranium ou de plutonium à des patients à leur insu, ou le silence acheté des familles de travailleurs victimes de contamination, ou encore les territoires du Nevada rendus radioactifs. De la même manière, il fallait que les Américains ne soient pas accusés de crimes contre l'humanité pour avoir sacrifié les populations d'Hiroshima et Nagasaki. On sait maintenant qu'il a fallu prolonger la guerre et retarder la capitulation du Japon pour avoir le temps d'expérimenter in situ l'efficacité de cette nouvelle arme, montrant la supériorité des États-Unis. L'occupant américain a interdit tout accès journalistique ou scientifique étranger sur les sites martyrs et il a confisqué tous les témoignages japonais. Il fallait prétendre qu'il n'y avait pas de dangerosité durable une fois les bombes atomiques explosées. On peut compléter aussi ces informations avec le livre de Jean-Marc Royer, paru aux Passagers clandestins en 2017, qui s'appelle « Le monde comme projet Manhattan ». Oui. Quand on sait ce que c'est que le projet Manhattan, ça donne la chair de poule, rien qu'à le lire. L'auteur développe les racines du négationnisme nucléaire avec toutes les horreurs telles que l'évocation des 9000 cobayes humains ou la gestion criminelle post-Hiroshima et Nagasaki. De plus, il relie cette barbarie du mépris de la vie humaine à celle qui s'est imposée à notre époque. De nos jours, la même stratégie continue. Ainsi, officiellement, Tchernobyl n'aurait fait qu'un nombre limité de victimes, suivant les sources, de quelques dizaines à quelques milliers, passant sous silence le calvaire des centaines de milliers de liquidateurs, donc ceux qui nettoyaient le site, et la contamination des populations voisines. Mais une équipe de l'Académie de médecine de New York, compilant en 2010 quelques 5000 documents du RSS, ont estimé à près d'un million le nombre de morts. Et de morts, hein, pas ceux qui vont mourir encore maintenant et demain des suites de cette horreur. À la demande de députés écologiques européens, un cabinet d'études, le CERI, c'est-à-dire le Comité européen sur le risque de l'irradiation, a évalué la mortalité liée au nucléaire à 61 millions de victimes, et c'était en 2003. Combien aujourd'hui? Car l'épidémie de cancer et de leucémie sensible depuis les années 60 et 70 perdure, épidémie liée essentiellement au nucléaire militaire et civil, et à la chimie bien entendu, avec en tête les pesticides. « Dans leur travail, les experts du CERI ont pris en compte non seulement la mortalité directe, mais aussi les dégâts sur la santé dus à de faibles et même à de très faibles doses de contamination et leur transmissibilité aux générations suivantes, scientifiquement prouvée. Enfin, le public sait-il qu'après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, les populations sont contraintes de vivre en zone contaminée. La dangerosité est niée. Les soins qui pourraient alléger les souffrances leur sont refusés, aux enfants en particulier. Pour les nucléocrates, vivre dans le jardin nucléaire est un challenge bénéfique. C'est la peur du nucléaire, la nucléophobie, qui rend tout le monde malade. Pas question donc de soigner tous les enfants accablés de maladies de vieux, c'est-à-dire 4 enfants sur 5 dans les zones contaminées. Puisque c'est psychologique, ils ressentent l'angoisse des parents. Seuls les militants de l'Institut Belrade, soutenus par l'ETB, c'est-à-dire l'association Enfants Tchernobyl Bélarusse, créée par Solange et Michel Fernex après Tchernobyl. Seuls donc ces militants, ayant établi un lien direct entre la contamination par le césium-137 et les atteintes à la santé, s'obstinent à proposer des cures de pectine. Mais cet institut est asphyxié, neutralisé. On lui retire les moyens de travailler. L'horreur nucléaire ne tolère pas la vérité. À ces manœuvres, on trouve nos nucléocrates, investis de responsabilités nationales et internationales. Jacques Lochard, aujourd'hui décédé, et Gilles Dubreuil, de Mutadis Consultant. Leurs actions criminelles sont faites en notre nom, nous rappellent Pierre et Annie. Le négationnisme évite la prise de conscience. Et voilà pourquoi nous n'entendons pas davantage parler du risque de catastrophe nucléaire, qu'elle soit d'origine militaire ou civile. Et pourtant, nous sommes menacés par des équipements vieillissants, équipés de pièces défectueuses, entretenus avec des budgets réduits, mais les partis de gouvernement, les grands médias, s'en remettent à nos experts du corps des mines, chargés depuis De Gaulle de promouvoir le nucléaire militaire et donc aussi son utilisation civile au nom de la grandeur de la France, quel qu'en soit le prix et les conséquences pour la population. Ne resterait-il à la France que les industries liées à la guerre, avec aussi les ventes d'armes aux dictatures, évidemment. Il apparaît alors une grande différence entre la prise de conscience du risque climatique et celle du risque nucléaire occulté. Le risque climatique est largement médiatisé et bien pris en charge par les écologistes associatifs et politiques, et médiatisé par notre président de la République qui commence à en faire un peu beaucoup pour les résultats assortis. Rien de comparable pour dénoncer les mensonges et les horreurs du nucléaire civil et militaire. Cette tâche incombe aux groupes spécifiquement anti-nucléaires qui n'accèdent pas aux grands médias et peinent à toucher un large public au-delà des cercles militants. Et pendant que l'opinion se focalise sur le climat, l'État peut se consacrer à sauver le nucléaire avec des sommes considérables, sans pour autant engager les mesures nécessaires à la réduction de la pollution atmosphérique. Ainsi, 8 milliards d'euros ont été engagés pour sauver Areva, devenu Orano, c'est plus discret, et EDF de la faillite. Et ce, en plus des budgets consacrés annuellement au nucléaire, à la force de frappe pour laquelle un plan pluriannuel vient de prévoir 35 milliards pour la rajeunir, notre force de frappe, pour la gestion des déchets, pour les recherches du CEA, et pour la construction d'ITER, le centre de recherche sur la fusion nucléaire.
La grandeur de la France
et notre siège au Conseil de sécurité justifie-t-il vraiment ces énormes sacrifices que nous payons, vous et moi? Au nom du rayonnement de la France, on peut voir à ce sujet le livre de Gabriel Hecht aux éditions Amsterdam, paru en 2014, « Rayonnement de la France, seule la France s'obstine dans la politique de l'électricité nucléaire et de l'armement atomique, se gardant bien de consulter la population. Dans les pays voisins, des processus démocratiques ont permis un désengagement au bénéfice des renouvelables. Au niveau mondial, le déclin de cette technologie obsolète est largement amorcé. Elle n'assure plus que 2% de l'énergie totale utilisée dans le monde. Même la Chine développe beaucoup plus le solaire et l'éolien que le nucléaire. Face à la barbarie du nucléaire et en dépit de son négationnisme, comment sensibiliser le public et l'amener à exiger l'arrêt du nucléaire civil, qui ne sert finalement qu'à faire bouillir de l'eau pour produire de l'électricité? Oui, c'est ça le fonctionnement, le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Eh oui. a exigé aussi la destruction de l'armement nucléaire dont l'horrible perspective de son utilisation est humainement insupportable, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous faire écouter un morceau d'une interview d'une sociologue qui s'appelle Sezin Topsu et qui a été interviewée par des collègues de Marseillais de la demi-heure radioactive. Mais avant ça, on va se faire un petit peu de musique pour se remonter le moral. Voici donc maintenant un extrait de l'interview donc de Sezin Topsu par nos collègues de la demi-heure radioactive à Marseille. Cette interview portait sur le livre de Cézine Topsou, « La France nucléaire », qui est paru au Seuil. Il s'agit de « La culture du secret, gouvernée par le secret, comme on sait si bien faire en France ».
Mais est-ce qu'on peut essayer de dire comment la banalisation en fait des conséquences d'une catastrophe se met en place?
Déjà, entre la gestion post-catastrophe 1 86 et celle qu'on a observée en 2011, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de fin. C'est noir et blanc, en fait, en termes d'information du public, en termes de communication, politique communicationnelle, je pense. En fait, en 86, on a effectivement assisté à l'apogée de cette politique par le secret qu'on a, en fait, observé tout au long de la décennie 70. C'était le secret absolu, en fait. Ça, on n'a pas dit tout à l'heure, mais tout au long de la décennie, qui avait poussé les acteurs critiques d'ailleurs à insister précisément sur la nécessité de contrer la propagande de l'État, donc de créer des informations, une contre-information, des contre-expertises, etc. Donc c'était presque ridicule, en fait, le recours, l'ampleur du recours au secret pendant cette période-là, et ce ridicule va être encore plus poussé en 86 par ce qu'on connaît, je ne vais pas reprendre puisqu'on n'a pas trop le temps, mais effectivement une sorte de singularité française qui se dessine par ce recours absolu au secret en 86, qui finalement ne va pas en même temps provoquer des réactions massives formulée sous forme d'une opposition frontale au choix nucléaire, mais plutôt formulée sous forme d'une demande, d'une revendication de la part des citoyens français, donc qui se considèrent aussi légitimes que d'autres nations à avoir une information juste et une protection donc appropriée en cas de catastrophe. Et c'est là que, par exemple, sous une forme ironique, bien sûr, j'ai pu dire dans ce chapitre que bon, peut-être que même Pierre Pellerin, paradoxalement, a pu sauver la filière nucléaire, puisqu'en insistant outre mesure sur le secret, en le mobilisant outre mesure, en fait, finalement, l'État a pu réussir à cadrer d'une certaine façon l'étendue de la critique, et puis surtout la façon dont la critique s'est formulée. Donc, surtout autour des questions d'information et d'expertise, ça s'est formulé dans cette période d'après catastrophe de Tchernobyl. Après l'accident de Fukushima, on a assisté à une dynamique différente. On n'a pas eu ce recours accru au secret. Au contraire, dès le départ, il y a eu comme une sorte de volonté consensuelle pour être transparent, pour donc informer les Français avec des mesures, avec énormément de chiffres. Enfin, on a eu quand même une information abondante, contrairement à ce qu'on a eu en 86. Après, la deuxième question qui concerne la banalisation, je pense que la banalisation ou le souci à normaliser donc le risque nucléaire ou en tout cas le risque d'accident qui nous intéresse ici date déjà des années 90, c'est-à-dire dès 80. Avec Tchernobyl, on est encore dans un régime négationniste face à la probabilité de risque d'accident. On dit encore que c'est presque impossible. Comme on disait dans les années 70, les Français pouvaient dormir tranquilles parce que de la même façon qu'ils n'auraient pas une météorite qui tomberait sur leur tête, ils n'auraient pas une centrale qui exploserait comme une bombe. C'est ce qu'on disait dans les années 70. En 86, on a dit à peu près la même chose en disant ben, le cas des Soviétiques, c'est quand même exceptionnel, c'est des communistes, leur technologie n'a rien à voir avec la nôtre, etc. Alors que, à partir de 90, on assiste en fait à une rupture, en tout cas une transformation profonde de ce discours-là, avec effectivement petit à petit une mise sur la place publique d'un nouveau discours en fait qui va insister désormais sur de la même façon qu'on dit qu'il n'y a pas le risque zéro n'existe pas. Cette fois, on va insister sur le fait que ben on est entré dans une société du risque. Vous voyez, avec le changement climatique, c'est le cas. Il faut qu'on s'adapte au changement climatique. De la même façon, il faut s'adapter, en fait, d'une certaine façon, à l'idée qu'il y a aussi le risque radioactif parmi d'autres, parmi nous, et il faut apprendre à d'une certaine façon, vivre avec. Et cette idée-là, en fait, qui donc s'amorce à partir des années 90 dans les milieux gestionnaires, va petit à petit être amplifiée autour notamment de l'épineuse question de la réhabilitation des territoires contaminés de Biélorussie, puisque c'est à partir du milieu des années 90, effectivement, qu'au niveau international, comme au niveau des pays comme la Biélorussie et l'Ukraine notamment, on se rend compte qu'il est presque impossible, en fait, de prétendre un retour à la normale en cas de contamination de longue durée, puisque les compensations promises coûtent énormément cher, et même physiquement, c'est presque impossible. Donc, en fait, à partir de là, émerge une idée qui consiste à dire que finalement, le mieux, c'est de dire aux gens que finalement, il faut qu'ils apprennent aussi à vivre avec ça. Et c'est là qu'en fait, on voit la mise en place de programmes européens, français, entre autres, qui vont insister justement sur la nécessité de responsabiliser désormais les citoyens, voire les victimes sur place, pour qu'ils puissent en fait eux aussi prendre part, selon leur dire, à la gestion au quotidien donc de ce risque quotidien, durable, inévitable, incontournable, etc. Et c'est là qu'effectivement, en France, parallèlement, on assiste par exemple pour la première fois à une insistance sur le fait que désormais les citoyens français peuvent trouver, c'est à partir de 96 ça, de l'iode stable par exemple dans les pharmacies, en cas de nécessité, donc notamment dans des communes voisinant des centrales nucléaires. On assiste à la multiplication des simulations d'accidents dans les écoles. On assiste aussi à ce discours-là, donc très nouveau pendant cette période, mais qui va devenir tout à fait récurrent après, qui consiste à dire de la part de l'expert public, des experts publics, que donc un accident nucléaire grave n'est pas exclu en France. C'est ce qu'on a vu aussi, donc précisément après l'accident de Fukushima. Tout de suite, on nous a dit que même s'il faut imaginer l'inimaginable, même si effectivement on va tout faire pour renforcer la sécurité des centrales nucléaires françaises, il faut aussi admettre qu'un accident grave n'est pas exclu en France. C'est toujours ce qu'on dit, en fait, ce qu'on nous dit depuis ces accidents en chaîne de Fukushima, donc dont l'importance, ou en tout cas le risque semblable n'est absolument pas nié pour le cas de la France.
We'll be right back.
D'autant plus que même, on peut dire, par exemple, à la veille de la conférence environnementale, on a assisté à pas de plus encore dans l'importance de ce discours, en fait, dans le renforcement de ce discours, de la part notamment du président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui a pu dire en septembre donc 2013, à la veille de la conférence environnementale, que non seulement qu'il y a un risque d'accident grave de type Fukushima, mais en plus qu'il faut qu'on se prépare à la possibilité d'avoir des accidents donc intervenus simultanément sur 5 à 10 réacteurs français. Étant donné que les réacteurs sont standardisés et que donc il faut qu'on soit prêt à de telles défaillances, non pas seulement sur un site, mais sur plusieurs sites à la fois. Et il ajoutait que donc il n'y avait pas de problème qu'à Fessenheim, mais qu'il y a aussi des problèmes à Tricastin, il y a aussi des problèmes à Blaye, entre autres. Donc effectivement, il y a une révolution en fait absolue sur le plan discursif concernant la façon dont le rapport que les Français et les Européens nous tous devons entretenir face au risque d'accident doit désormais être modifié. Et c'est dans ce sens qu'est donc poussé effectivement ces nouvelles politiques communicationnelles, insistant sur la nécessaire adaptation, résiliation, qui est un terme qui est devenu à la mode dans bien de domaines d'ailleurs, en quoi donc le risque de toute façon est de formes multiples, concerne de technologies multiples, et donc pourquoi pas considérer aussi le risque nucléaire comme les autres, en regardant les avantages, les inconvénients, les coûts et les bénéfices. Et donc finalement, si on en est finalement arrivé à accepter ce risque-là, c'est ce qu'ils estiment en fait, hein, au niveau gestionnaire, au niveau des corps politiques, et ben à ce moment-là, il faut que le citoyen accepte aussi à être responsable désormais, à le gérer aussi à son modeste niveau, si jamais il était amené à le gérer.
C'est un peu notre dada, j'allais dire, de s'inquiéter vraiment de cette association des futures victimes ou des victimes potentielles que nous sommes tous aux conséquences sanitaires et sociales. Hein. C'est cette espèce de co-gestion qui nous semble assez terrifiant. Mais bon, votre livre est extrêmement riche. On a vu en une demi-heure une toute petite partie. On a balayé beaucoup de temps historique, mais il y a énormément d'exemples dans votre livre. Il est vraiment passionnant. En tout cas, je vous remercie d'avoir été...
Je crois que je vous repasserai cet extrait d'interview. Il vaut son pesant d'or. Et qu'il soit partagé seulement entre Marseille et Toulouse, c'est pas assez. Hein. Donc, on le réécoutera de façon à ce que tout le monde ait entendu cette dame extraordinaire. Donc je vous rappelle le nom, Cézine Topsou. Maintenant, cette dame nous parlait de Tricastin, évidemment de Fessenheim, et du Blayais. Eh bien, on vous a trouvé des nouvelles du Blayais. Alors, on va encore se prendre une petite dose de bonne humeur, et puis vous allez voir ce qui s'est passé au Blayais. Thank you. Alors, on nous parlait du Blayais. Je suppose que vous vous souvenez, on vous en a assez parlé sur Canal, je suppose que vous vous souvenez que la nuit, je crois, du réveillon de 1999, pendant l'énorme ouragan, tornade, enfin tout ce que vous voulez, qui s'est produit sur toute la France et en particulier sur le sud et à Toulouse aussi, eh bien, au Blayais, la salle des commandes de la centrale nucléaire avait été inondée. Et ça fait que tout s'est arrêté. Et paradoxalement, y compris le refroidissement par eau, alors que la salle était noyée. Eh oui. Et pendant ce temps-là, ça continuait à chauffer, bien entendu. Alors on est passé tout près d'un petit Fukushima au Blayais en 99. Mais 99, ben, il y a 20 ans, hein, maintenant on s'est prémuni, croit-on, contre ça. Mais il y a une chose contre quoi on ne s'est pas prémuni. Le mercredi 20 mars 2019, un séisme d'une magnitude non négligeable, 4,9, s'est produit à proximité de la centrale nucléaire du Blayais en Gironde. Il est légitime de se demander si cet événement n'est pas le dernier appel avant que le pire ne se produise. En effet, même s'il se termine sans dommages importants, cet épisode vient rappeler que l'ensemble de la population française et même européenne vit sous la menace d'une catastrophe nucléaire dont la cause peut être purement industrielle, mais qui peut aussi survenir à la suite d'événements naturels. Il se trouve que lors de la fameuse tempête du 27 décembre 1999, la centrale du Blayais a déjà montré sa grave vulnérabilité face au risque inondation, avec un scénario, comme je vous disais, proche de celui qui allait se produire 12 ans plus tard à Fukushima. L'événement de ce jour, 20 mars 2019, est l'occasion de rappeler que, bien que le risque sismique soit relativement modéré en France, le danger est bien réel. Car, par souci d'économie, EDF a construit ses centrales nucléaires en fonction du risque théorique. Et comme il n'y avait pas eu de gros tremblements de terre à ce moment-là encore, eh bien, elles ont été construites de façon peu résistante. Il est par ailleurs notable que 8 ans après le début de la catastrophe de Fukushima, parce que la catastrophe de Fukushima, elle continue, hein, elle n'est pas prête de s'arrêter, hein, avec la transmission des conséquences radioactives de génération en génération, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc 8 ans après le début de la catastrophe de Fukushima, qui va se poursuivre encore pendant des décennies, les mesures de sûreté dites post-Fukushima ne sont toujours pas en place chez nous. Il faut aussi rappeler que même quand ces mesures seront enfin de mise, la catastrophe pourra toujours se produire. Car l'expérience montre qu'il est impossible de prévoir tous les scénarios. Et ça, d'autant plus que toute construction humaine est faillible et que l'accident peut être causé par des erreurs de conception, de construction, d'exploitation, de maintenance, le tout étant démultiplié par le vieillissement des installations. Alors, non seulement la centrale est très vulnérable face au risque d'inondation et à celui des séismes, mais cette centrale du Blayais est aussi une des plus anciennes de France. Elle a 38 ans de service, elle avait 38 ans de service, donc en mars 2019. Loin de la désinformation orchestrée par EDF, mais aussi par la prétendue autorité de la prétendue sûreté nucléaire, l'ASN, la seule façon D'être sûr d'éviter la catastrophe nucléaire, c'est de fermer au plus vite la centrale nucléaire du Blayais et les autres. C'est mon avis et je le partage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous ai peut-être fait suffisamment de misère, sinon de peur pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Tenez-vous au frais.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumise.